VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le président américain Barack Obama a rendu un hommage ému aux victimes de la première attaque nucléaire de l'histoire lors d'une visite historique à Hiroshima aujourd'hui. Il a serré la main et il a pris dans ses bras des survivants de la bombe atomique. Le chef de la Maison-Blanche a saisi aussi l'occasion de la première visite d'un président des États-Unis en exercice dans cette ville anéantie le 6 août 1945 par une bombe nucléaire américaine pour appeler à un monde sans armes nucléaires. Didi, c'est un Algérien de 35 ans. Il a été naturalisé français pour acte de bravoure lors des attentats du 13 novembre à Paris. Didi, qui travaillait comme responsable de la sécurité dans la salle de concert au Bataclan, a sauvé la vie à de nombreuses personnes ce jour-là. Perpétré par 3 commandos djihadistes, les attentats dans Paris et sa banlieue avaient coûté la vie à 130 personnes, dont 90 tués au Bataclan. Et toujours en France, les syndicats opposés au projet de loi travail ont appelé à amplifier les mobilisations, manifestations et blocages se succèdent depuis plus de 2 mois en France dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Du Japon, où il participait au G7, le président François Hollande leur a répondu qu'il tiendrait bon parce que c'est une bonne réforme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'homme d'affaires Donald Trump, ici aux États-Unis, a franchi un cap historique hier en atteignant la majorité de délégués nécessaires pour l'investiture automatique du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Chérubin Dorsil.
Donald Trump a passé la barre. C'est lui-même qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Bismarck, dans le Dakota du Nord. Il a dépassé les 1237 délégués, une majorité qu'il était de toute façon assuré d'atteindre le 7 juin pendant les primaires républicaines dans plusieurs États, dont la Californie. Ce quasi-néophyte de la politique, âgé de 69 ans, a surmonté toute la concurrence d'au moins 16 autres candidats qui ont fini par jeter l'éponge. Sans concurrence depuis 3 semaines, il était de facto devenu le candidat officieux du parti pour la Maison-Blanche. Maintenant, M. Trump concentre sa puissance de feu sur Hillary Clinton, qu'il qualifie inlassablement de malhonnête. Mme Clinton ne devrait parvenir à l'investiture que le 7 juin, lors des scrutins démocrates de Californie et de 5 autres États. Bernie Sanders ne lâche pas et a même demandé un nouveau décompte dans le Kentucky, où Hillary Clinton l'avait emporté de justesse. Mais le résultat a été confirmé hier par les autorités locales.
Retour sur le continent africain, le conducteur de l'un des véhicules ayant servi lors de l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts le 13 mars à Grand Bassam en Côte d'Ivoire a été arrêté et est en train d'être interrogé, selon un communiqué des services de sécurité ivoiriens dont l'AFP a reçu copie jeudi. Aucun détail sur le lieu de son arrestation. En Angola, 3 personnes ont été tuées dans des violences politiques entre partis rivaux à Koubal, dans l'est du pays, selon un nouveau bilan fourni par la police et le principal parti d'opposition joint aujourd'hui. Dans un premier temps, hier, le principal parti d'opposition, l'UNITA, avait fait état d'un mort, un cadre du parti à Koubal, dans la commune de Kapupa. Lors d'une conférence de presse jeudi soir, la police a finalement avancé un bilan de 3 morts. Ce sont des conflits de caractère politique entre 2 partis rivaux qui se sont soldés par la mort de 3 personnes, a déclaré un porte-parole de la police Carlos Mota à Benguela, dans l'est de l'Angola. À Maurice, le chef de file du principal parti gouvernemental et fils du premier ministre, Pravin Jugnauth, a prêté serment hier comme ministre des Finances après avoir été innocenté dans une affaire de conflit d'intérêts. Pravin Jugnauth, âgé de 54 ans, retrouve ainsi un poste qu'il avait déjà occupé entre 2003 et 2005, puis entre 2010 et 2011. Il a prêté serment devant la présidente de la République de Maurice, Amina Gourib Fakim, et intègre donc le gouvernement de son père, Sir Anirudh Jugnauth, premier ministre de cet État de l'océan Indien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'aventure maintenant, Solar Impulse 2, l'avion volant exclusivement à l'énergie solaire, poursuit son tour du monde par une traversée des États-Unis. Ses ailes, plus grandes que celles d'un Boeing 747, sont recouvertes de cellules photovoltaïques qui actionnent les hélices en même temps qu'elles rechargent les batteries pour les vols de nuit. Pourquoi avoir opté pour l'énergie solaire? Timothée Donangmaï a posé la question à l'un des 2 pilotes de l'avion, le Suisse Bertrand Picard. On l'écoute.
On présente beaucoup trop souvent les énergies renouvelables comme quelque chose d'anecdotique, voire même de menaçant pour notre confort et notre mobilité. Et moi, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'au contraire, aujourd'hui, les énergies renouvelables peuvent permettre des choses impossibles, incroyables, comme de voler jour et nuit avec un avion sans aucun carburant. Et tout ce qui est technologie propre aujourd'hui, aussi pour être plus efficient en énergie, hein, l'isolation des bâtiments, les moteurs électriques, les smart grids, hein, les réseaux de distribution d'électricité dits intelligents. Tout ça, c'est pas seulement pour protéger l'environnement, c'est aussi pour faire du profit, créer des emplois, stimuler le développement économique et industriel, parce que c'est un nouveau marché qui est absolument énorme dans le monde entier, a besoin pour améliorer la qualité de vie. Les entreprises qui le comprennent vont avoir des nouveaux débouchés extrêmement favorables et positifs pour eux.
Alors, une description du Solar Impulse 2, qu'est-ce que c'est comme avion ?
Alors, vous vous imaginez un avion qui a l'envergure d'un jumbo jet, d'un Boeing 747, c'est 72 mètres d'envergure, mais le poids d'une voiture familiale. Il est construit en fibre de carbone, de manière extrêmement légère. Il a 4 moteurs électriques et des cellules solaires sur les ailes et sur le fuselage et sur la queue. Ce qui veut dire que pendant la journée, le soleil suffit à faire tourner les 4 moteurs et charger les batteries pendant le vol. Et puis pendant la nuit, on utilise les batteries pour atteindre le lever de soleil suivant. Et le lendemain matin, le soleil revient et on recommence un nouveau cycle d'un jour et une nuit. Et on arrive comme ça à voler, entre guillemets, perpétuellement. Quand André a volé du Japon jusqu'à Hawaï, il est resté 5 jours et 5 nuits en vol. Moi, depuis Hawaï jusqu'à San Francisco, j'ai volé 3 jours. Donc c'est extraordinaire. Vous vous dites que vous pouvez faire les plus longs vols de l'histoire de l'aviation sans aucun carburant quelconque. C'est incroyable. En fait, on se croit dans le futur avec la science-fiction alors qu'on est dans le présent. C'est ça qui me plaît le plus quand je vole cet avion.
Ce sont des vols en solitaire. Qu'est-ce que cela représente au plan psychologique, au plan physique ?
Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un deuxième siège dans le cockpit qui devrait être plus grand, avec plus d'équipement, parce que toute la charge utile est utilisée pour les batteries. Donc, c'est passionnant. Quand j'ai fait le tour du monde en ballon, nous étions 2. Et c'était un vol de 20 jours sans escale. Mais 20 jours à 2... on se relaie, on peut se reposer plus facilement. Là, plusieurs jours, tout seul dans un cockpit d'avion minuscule, c'est vrai que ça nous oblige à développer des nouvelles techniques, autant pour se reposer que pour rester réveillé. André utilise du yoga, moi j'utilise de l'auto-hypnose, et ça nous permet vraiment de bien gérer nos vols. Autant lui que moi, nous sommes arrivés en très bonne forme après les vols les plus longs.
Le Suisse Bertrand Picard, pilote de l'avion solaire Solar Impulse 2, lors d'une escale à Dayton dans l'État américain de l'Ohio. L'intégralité de cette interview dans notre magazine Carrefour Science et Santé et sur notre page internet voafrique.com.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Retour en studio. Le ministre israélien de l'Environnement, Avi Gabe, a démissionné aujourd'hui pour protester contre la prochaine entrée au gouvernement de l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, nommé à la tête du ministère de la Défense. La démission de M. Gabe, membre du parti de centre droit Kulanu, qui a qualifié le gouvernement remanié d'extrémiste, reflète les dissensions au sein du cabinet de Benjamin Netanyahou. Mais son départ n'aura pas d'impact sur la majorité parlementaire de la coalition de droite, M. Gabe n'étant pas député. Le pouvoir turc prévoit de soumettre en juin au Parlement une révision de la Constitution qui permettra au président Recep Tayyip Erdogan de renouer avec son parti. Cet amendement s'inscrit dans le cadre d'un passage à un régime présidentiel qui n'est pas d'actualité pour le moment, mais parce que l'opposition parlementaire y est très hostile. M. Erdogan appelle de ses voeux à une présidentialisation du système politique turc afin de rompre avec 9 décennies de tradition parlementaire. Et puis pour terminer, les forces soutenues par les États-Unis en Irak et en Syrie ont avancé hier dans leur offensive contre le groupe djihadiste d'État islamique. Les analystes prévoient toutefois que la bataille pourrait être longue. Au plan diplomatique, l'émissaire de l'ONU en Syrie a indiqué au Conseil de sécurité qu'il n'envisageait pas de nouveau pour parler de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition armée avant 2 ou 3 semaines. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.